Maintenant, nous allons avoir le plaisir d'écouter Mohamed Ali Amir Moezi, que je ne présenterai pas d'abord parce que je pense qu'il est, il est très connu ici et aussi comme dans le cas de Dominique et Marie-Thérèse Urvois parce que sa bibliographie est trop importante et ça nous prendrait du temps de l'évoquer. Par contre, je me bornerai à signaler une chose qui est la parution imminente en octobre de cette année d'un triple volume, Le Coran des historiens, qui va être une somme concernant, disons, enfin, d'abord le point sur les études coraniques actuelles, et puis le texte même du Coran, commenté par des savants contemporains, des spécialistes comme ceux que nous avons écoutés aujourd'hui, enfin, je ne sais pas si. Et donc, sa publication en français bientôt sera, je pense, réellement un événement de premier plan.
Merci, merci beaucoup Pierre. Oui, effectivement, c'est un travail collectif, donc qui est une sorte de monumentale synthèse des études scientifiques faites sur le Coran depuis le 19e siècle jusqu'à maintenant. Un grand merci aux organisateurs de ce colloque, François Desroches, Hassan Chahdi et Léonore Sellard, pour leur accueil chaleureux. Alors, moi, je vais parler de quelques aspects problématiques du Coran, comme mes collègues. En quelque sorte, c'est un peu la suite de ce qui vient d'être dit déjà par Hassan Chahdi, François Desroches et puis Dominique Urvois. Donc, le caractère problématique du Coran a été très vite signalé dans les cercles d'orientalistes. Et en particulier son caractère, son style, hein, son style fragmentaire, son style décousu, où il n'y a pas de trame narrative, déjà chez des gens comme Hirschfeld ou Weil dans la première moitié du 19e siècle, il y avait le style qui posait problème. Et puis également, autre chose, c'était l'absence de noms de personnes, de contemporains du prophète. C'est-à-dire, les orientalistes se disaient pourquoi, parmi tous les contemporains importants du prophète, seuls deux personnages obscurs et énigmatiques sont cités par le Coran, c'est-à-dire Zayd, ce soi-disant fils adoptif du prophète, et un certain Abu Lahab, que la tradition a dit être l'oncle du prophète et qui n'a joué absolument aucun rôle important dans la mission du prophète. Donc, ce caractère problématique a été soulevé et souligné. Bien sûr, aucun musulman ne dirait maintenant que le Coran est problématique, n'est-ce pas ? Au contraire, c'est un texte extrêmement clair, écrit dans un arabe, on ne peut plus clair. Mais je crois que l'histoire de l'islam et des idées en islam nous montrent qu'il y a certains aspects objectifs qui peuvent nous montrer qu'il y avait effectivement que le texte du Coran était problématique par les musulmans. Hassan Chahdi et François Desroches en ont parlé d'un certain nombre d'éléments. Moi, je me tourne vers ce qu'on appelle les disciplines coraniques, les sciences coraniques. Alors, d'abord, en ce qui concerne le style, là aussi, Dominique Urvois a parlé des objections faites par les chrétiens. Très tôt, les gens appartenant au peuple conquis et qui appartenait à d'autres religions, et en particulier les chrétiens, les juifs et surtout les manichéens, ont critiqué le style du Coran. Et nous avons le texte de ces controverses entre donc musulmans et non musulmans. Et donc effectivement, les gens, et surtout les manichéens, leur disaient mais qu'est-ce que c'est que ces livres ? On n'y comprend rien, n'est-ce pas ? C'est-à-dire tout et c'est complètement décousu, etc. Et effectivement, les musulmans apparemment avaient du mal à répondre sur cette question. Et donc, ils sont mis à mettre sur pied tout un genre littéraire qu'on appelle justement la composition du Coran, Nazm al-Qur'an, avant, disons, l'élaboration de la théorie de l'inimitabilité du Coran, Ijaz al-Qur'an, qu'on a parlé. Mais au début, c'est simplement pour justifier ce style très particulier du Coran. Et donc, la naissance d'un genre littéraire, la composition du Coran. Alors, quand on regarde les différents titres composant ce genre littéraire, nous voyons que les auteurs ont apporté des réponses complètement différentes pour justifier, pour expliquer cette absence, je dirais, de style ou de structure ou de trame narrative du Coran. Même quelqu'un comme mon ami Michel Cuypers, qui a travaillé sur la rhétorique coranique, avoue à plusieurs reprises dans ses écrits qu'effectivement, on ne trouve pas une réponse sur la question de la rhétorique du Coran dans la littérature de la composition du Coran. Ce qui veut dire que ces auteurs musulmans ne savaient pas pourquoi le Coran est-il comme ça. Donc, que le Coran était problématique. Autre problème, c'est la chronologie. La chronologie des versets et des sourates. Alors là, les musulmans avouent eux-mêmes que l'architecture du Coran officiel que l'on connaît, la composition, n'a pas respecté l'ordre chronologique. Donc, on a adopté un ordre tout à fait particulier. Bon, les sourates les plus longues au début, et puis de plus en plus de sourates courtes. On ne comprend pas très bien cette logique. Alors, certains ont parlé d'une pratique scribale, mais ça ne me paraît pas très convaincant. On reconnaît un peu ça dans les écrits de saint Paul, effectivement, où on va des plus volumineux vers les plus sommaires. Bon. Mais on n'a pas vraiment trouvé une logique dans cet ordre, finalement, adopté par les musulmans. Et puis, on a dit, bon, il y a des sourates mécoises, il y a des sourates médinoises, mais à l'intérieur des sourates mécoises, il y a des versets médinois. À l'intérieur des sourates médinoises, il y a des versets mécois. Donc, ça veut dire qu'il n'y a absolument aucun ordre. Alors, parmi les lettrés musulmans, certains ont essayé d'établir l'ordre chronologique des sourates, de grands savants. Pour vous donner trois exemples, donc Ibn Nadim au Xe siècle de notre ère, Zarkashi au XIVe, XVe siècle de notre ère, et Suyuti, XVe, XVIe de notre ère. Ils ont essayé donc d'établir une liste chronologique des sourates du Coran, et nous avons trois listes différentes. C'est-à-dire que ces auteurs ne connaissaient pas la chronologie du Coran. C'est-à-dire que ça posait problème et que le Coran était problématique. Autre science coranique, les circonstances de la révélation. Asbab al-Nuzul ou Asbab al-Nuzul al-Ayat, autre genre littéraire. Donc, les lettrés musulmans et les experts du Coran ont essayé de trouver les circonstances historiques dans lesquelles tel ou tel verset ou groupe de versets ou sourate a été révélé au prophète Mohammed. Donc, là aussi, avec le temps, est né tout un genre littéraire qu'on appelle les circonstances de la révélation, qui comprend beaucoup de titres, etc. Et quand on regarde de près les différents titres ou les citations de ces ouvrages concernant les circonstances et relations de tel ou tel verset, nous arrivons à des résultats extrêmement différents, c'est-à-dire que selon les auteurs, nous avons des circonstances différentes pour les versets. Alors Tabari, qu'on a déjà beaucoup cité, le grand commentateur du Coran et le grand historien, a l'honnêteté intellectuelle de présenter très souvent la liste des auteurs qui l'ont précédé et qui ont donné leur théorie sur les circonstances de révélation de tel ou tel verset. Et on arrive parfois, chez Tabari, jusqu'à 14-15 théories différentes sur les circonstances de la révélation. C'est-à-dire que les musulmans ne connaissaient pas les circonstances de la révélation, c'est-à-dire que le Coran donc leur posait un problème. Autre science coranique, la science de l'abrogation, le nasr, c'est-à-dire le genre littéraire qu'on appelle Kutub al-Nasr wa al-Mansur, donc le livre de l'abrogeant et de l'abrogé, là aussi tout un genre littéraire. Donc c'était pourquoi la science de l'abrogeant et de l'abrogé, très probablement pour apporter une réponse ou une justification sur les contradictions que contient le Coran. Hein ? Pour vous donner un seul exemple, mais il y en a, je dirais, plusieurs dizaines, l'attitude du Coran au sujet du vin. Donc, d'abord, il y a des versets qui déclarent que le vin est un breuvage paradisiaque, n'est-ce pas, au même titre que le lait ou le miel. D'autres versets qui disent que le vin, on peut le boire sauf au moment de la prière, n'est-ce pas, donc, il faut éviter le vin au moment de la prière, c'est-à-dire qu'on peut en boire en dehors durant des prières. Et puis, breuvage diabolique, complètement illicite. Donc nous avons ces trois. Alors ça aussi c'est une autre question, pourquoi finalement l'orthodoxie islamique a toujours opté pour la position la plus dure, hein, d'autant qu'on ne connaît pas la chronologie du Coran, hein, on aurait très bien pu dire, non, c'est le verset qui fait l'éloge du vin qui abroge son interdiction. Non, c'est toujours, ça va dans le sens de d'une certaine dureté. Bon, donc, pour répondre à un certain nombre de contradictions que l'on trouve à l'intérieur du Coran, les musulmans ont mis sur pied ce genre littéraire de la science de l'abrogation, donc de l'abrogé et de l'abrogeant. Et là, d'après une étude poussée de regretté Andrew Rippin, le nombre des versets abrogeants et abrogés selon les différents ouvrages appartenant à ce genre varie entre 3 et 400. Entre 3 et 400. C'est-à-dire, selon certains auteurs, il y a 3 versets qui abrogent 3 autres, selon d'autres, jusqu'à 400. Donc, ça vous donne une idée de la divergence des savants sur cette question. Conclusion logique que l'on peut tirer, c'est que les savants musulmans ne savaient pas ce qui était abrogeant et ce qui était abrogé. Donc, là aussi, c'est-à-dire que le Coran posait problème, et en particulier ces contradictions. Et enfin, la question de l'altération. Monsieur Hourvois vient de parler de la cinquième objection dans les Fessal d'Ibn Hazm, c'est-à-dire que les sources islamiques, aussi bien sunnites que chiites, mais surtout chiites, ont gardé les traces de débats extrêmement âpres sur la question de l'authenticité de la version officielle du Coran. Et effectivement, dans beaucoup de cercles, on mettait en doute l'authenticité de la version officielle qu'on appelle la version de Ousmane. Et donc, on parle de la recension du codex d'Ibn Mas'ud, du codex d'Ubay ibn Ka'b, de Ali, de Abu Musa al-Ash'ari, etc. Donc, si on se fonde sur ces textes-là, c'est-à-dire que, et François Desroches en a parlé aussi, il y avait des versions différentes du Coran, des recensions différentes, au moins 3 ou 4, selon les données textuelles, qui circulaient sur les terres d'islam jusqu'au début du IVe siècle. Hassan Shahdi a parlé de Ibn Shannabouz et de Ibn Mirsam, n'est-ce pas, qui ont, enfin, leur procès date du début du IVe siècle, hein, début du IVe siècle de l'Égypte, c'est-à-dire que jusque-là, il y avait des versions parallèles du Coran qui circulaient et qui étaient enseignées, et donc, effectivement, le procès bagdadien de Ibn Shannabouz et de Ibn Mirsam marque la fin, je dirais, peut-être de la diffusion des Corans parallèles, malgré le fait que les différents pouvoirs califaux avaient essayé de faire disparaître ces Corans parallèles. Mais ce qui m'intéresse maintenant, c'est qu'il y avait des débats. Nous avons des textes, on a parlé de Ibn Abi Dawud al-Sijistani, Kitab al-Masahif, le livre des codex, qui nous donne, par exemple, le texte de deux sourates qui auraient figuré dans la recension de Ubay, mais qui ne figurent pas dans la version officielle. Dans le sens inverse, on disait que, selon Ibn Mas'ud, la première sourate, Al-Fatiha, et les deux dernières, Al-Mu'awwidhatayn, 113e et 114e, ne faisaient pas partie du Coran. C'était les prières du prophète. Et qu'on avait à tort ajouté ces sourates-là au Coran. Donc, ça veut dire qu'il y avait des débats entre musulmans qui ont duré jusqu'à 3 siècles, 3 siècles et demi. Donc, la question de tahrif, n'est-ce pas, de la falsification, montre également que le Coran était problématique pour les musulmans. Bon, on pourrait dire la même chose au sujet du hadith, mais bon, ça c'est une autre histoire. Aujourd'hui, on parle du Coran. Il y a également énormément de problèmes entre les experts de hadith, mais encore plus, je dirais, qu'en ce qui concerne le Coran. Alors, la question qui se pose, c'est que pourquoi tant de problèmes? Parce qu'il est difficilement imaginable que ces problèmes soient dus au hasard. Pourquoi le Coran est-il comme ça? Pourquoi son style est comme ça? Pourquoi il y a des contradictions? Pourquoi cette ignorance qui arrive très tôt parmi les intellectuels de l'islam concernant, je vais dire, le contexte du Coran, le contexte historique, la vie du prophète. Parce que parallèlement, il faut savoir que ce qui posait problème et qui était problématique, c'était également la sira, c'est-à-dire la vie du prophète, donc celui qui avait reçu, selon les croyances musulmanes, la révélation, la sira, donc autre grand chapitre des sciences islamiques, là aussi, ça pose énormément de problèmes. Énormément de problèmes, c'est-à-dire que, si vous voulez, avant la canonisation et l'uniformisation de tout, c'est-à-dire aussi bien du Coran que des sciences coraniques que de la sira, quand on regarde les phases antérieures, nous avons énormément de contradictions. Donc là, pour donner juste quelques exemples au sujet de la sira, les données les plus simples, les plus basiques, je dirais, entre guillemets, de la vie du prophète, posent problème. Nous avons des divergences parfois lourdes en ce qui concerne la date de la naissance du prophète, la date de l'égir, la date des différentes batailles, la date de la mort, le nombre de ses épouses, le nombre de ses enfants, son caractère, n'est-ce pas ? Nous avons des hadiths qui le présentent comme un ascète, n'est-ce pas ? Presque comme une sorte de moine chrétien à l'époque, une sorte d'anachorète, n'est-ce pas, qui menait une vie ascétique. Et nous avons des hadiths qui le présentent comme un homme extrêmement riche, n'est-ce pas, qui fait même étalage de sa richesse et qui considère cela comme un don de Dieu. Nous avons d'une part un prophète extrêmement tendre, presque féministe, mystique, n'est-ce pas, qui passe sa vie en prière, etc. Et de l'autre, nous avons, je vous invite à lire le Sirat d'Ibn Hisham, un prophète tortionnaire, pour ne pas dire assassin, dominateur, très, très misogyne, etc., etc. Donc, nous avons tout et son contraire. C'est-à-dire, là aussi, que la figure du prophète, enfin, le prophète historique, était déjà perdu. Ou bien, les auteurs qui voulaient écrire sur lui préféraient oublier, n'est-ce pas, le vrai Mohammed historique. Donc, la question qui se pose, c'est que pourquoi ? Donc, tout ceci ne peut pas être dû au hasard, d'autant plus que, bien sûr, il s'agit de sources extrêmement importantes, de sources fondamentales de la loi et de la foi. Et moi, je pense, j'en ai parlé dans un de mes livres, je crois que une des raisons principales, c'est que le Coran, et également le Hadith, a été élaboré surtout dans une ambiance de guerre civile. Ça, on l'oublie. Il y a beaucoup d'études sur les guerres civiles des débuts de l'islam. Il y a beaucoup d'études sur l'élaboration du Coran. Mais très rarement, on articule les deux. Ces deux événements sont contemporains. Et d'autant plus que dans les récits concernant, d'une part, les guerres civiles, d'autre part, la rédaction du Coran, nous trouvons les mêmes acteurs. Nous trouvons Othman, Omar, Ali. Nous trouvons Abdelmalek, cinquième calife omeyyade, extrêmement important. Deux de ses gouverneurs, Al-Hajjaj ibn Yusuf, qu'on a déjà mentionné, Ubaydullah ibn Ziyad. On trouve ces mêmes acteurs qui ont été extrêmement importants dans les guerres civiles, extrêmement importants également dans les récits de la rédaction du Coran, et puis mais on ne fait pas le lien. N'est-ce pas ? Donc comme, tout se passe comme si ces gens-là, enfin, les guerres civiles dont je parle, ce sont des guerres extrêmement violentes, ça aussi on l'oublie. Les conquêtes arabes ont fait beaucoup moins de morts que les guerres civiles entre musulmans eux-mêmes. Juste quelques rappels. Selon des récits, bien sûr, les sources musulmanes posent beaucoup de problèmes, mais elles sont d'accord sur un certain nombre de faits. Le prophète meurt. Bon, déjà, les dernières années de sa vie sont passées à faire des batailles, mais contre qui ? Contre les gens de sa propre famille, la tribu de Quraysh, n'est-ce pas ? Donc, nous sommes déjà dans une ambiance de guerre civile. Le prophète meurt, selon certains récits, empoisonné par certains de ses fidèles. Première violence de sa succession, donc entre le Banu Hashim, les Alides et les non-Alides, déjà des violences qui aboutissent à la mort du Fatima, mort de ses blessures, n'est-ce pas ? Puis Abu Bakr, la guerre, ce qu'on appelle les guerres de rébellion, anachroniquement traduit par les guerres d'apostasie, il n'y a pas d'apostasie puisque l'islam n'existe pas encore, donc il n'y a pas d'apostasie, simplement ceux qui, après la mort du prophète, veulent revenir à leur croyance ancestrale, des guerres extrêmement sanglantes que mène le premier calife. Deuxième calife, Omar, c'est les guerres de conquête. Assassiné, Omar, selon la tradition, par un esclave persan. Troisième calife, Osman, ce qu'on appelle la première grande guerre civile. Osman assassiné, finalement. Quatrième calife, Ali, 5 ans de règne, 3 guerres civiles absolument atroces, n'est-ce pas ? Guerre du chameau, Séfine, Nahrawan. Ali assassiné à son tour. Commence l'ère Omeyyade, la répression féroce des Alides, et qui suscite des révoltes armées, qui suscite une répression encore plus féroce tout le long du califat Omeyyade. Les Omeyyades tombent par une révolution sanglante abbasside, n'est-ce pas ? D'abord chiite, puis pour des raisons de pragmatisme politique, retour à la politique Omeyyade, c'est-à-dire la répression des révoltes alides et qui suscite d'autres révoltes. Et nous sommes à la fin du troisième siècle. C'est-à-dire pendant près de 3 siècles, l'islam vit dans une ambiance de guerre civile extrêmement violente. Et c'est dans cette ambiance-là, c'est-à-dire au début du premier siècle de l'Hégire, qu'est élaboré le Coran. Et bien sûr, on le sait, que l'écriture fait partie aussi des instruments de pouvoir. Chaque faction, pour ne pas dire chaque secte, chaque branche, avait sa propre version du Coran. Et donc, nous avons là la guerre des différentes versions qui justifie également, je dirais, les prises de position religieuses de chaque faction. Et peut-être ce qui se passe, on parle maintenant du fait que très probablement le Coran officiel que l'on connaît date de l'époque de Abdelmalek, le 5e calife Omeyyade, personnage politique extrêmement important, que certains considèrent avec des raisons solides comme le véritable fondateur de l'islam. C'est lui qui a mis sur pied quand même des lois extrêmement importantes, les lois de la guerre et de la paix, les différents taxes religieuses, l'arabisation de la langue de l'administration, l'arabisation peut-être de l'islam, et puis également quelqu'un qui a joué un rôle extrêmement important dans l'élaboration du Coran. Donc, selon certains spécialistes, c'est lui, en fait, celui qui a mis sur pied le Coran officiel en l'attribuant à Osman, peut-être en une sorte de clin d'œil, parce que Osman est le premier calife Omeyyade de l'islam. Il appartenait à la famille Omeyyade. Donc, et entre-temps, donc, à part les guerres civiles, il est arrivé un phénomène extrêmement important qui a changé la face du monde, c'est-à-dire les conquêtes arabes et la naissance d'un empire. Donc, à partir des grandes conquêtes, changement de paradigme, nous changeons de planète, en quelque sorte. Nous n'avons plus affaire à la communauté des fidèles des débuts. Et ces bouleversements extrêmement importants, les guerres civiles d'une part, et les conquêtes, et la naissance de l'Empire, sont contemporains de la naissance du Coran. Et donc, la question qui se pose, mais ça aussi, on n'a pas encore bien sûr de réponse, et moi encore moins, c'est que peut-être ce texte-là, avec toutes ses contradictions, avec ses problématiques, avec son style décousu, avec des parties inintelligibles, déjà pour les musulmans à l'époque haute, est une sorte de texte de compromis mis sur pied par Abdelmalek. Léo Strauss a théorisé la chose, c'est-à-dire que dans un contexte avec un pouvoir autoritaire, le pouvoir cherche toujours un compromis, mais c'est le pouvoir qui détermine les termes du compromis. Donc on a peut-être affaire à un scénario similaire. Donc, en tout cas, nous avons, ce qui est absolument certain, nous avons affaire à un texte officiel qui a vu le jour dans un contexte de guerre civile et dans un contexte de bouleversement complet des paradigmes, c'est-à-dire les grandes conquêtes et la naissance d'un empire. Alors, on peut remonter également plus loin, mais ça, je vais m'arrêter là. Pourquoi ces guerres civiles ? Pourquoi autant de violence entre les musulmans eux-mêmes ? Le tableau très schématique que je vous ai donné vous montre que pratiquement tous les grands personnages de l'islam ou de la religion naissante sont morts de mort violente, tués par d'autres musulmans. Pratiquement tous. Donc, ça pose question. Donc, pourquoi cette violence ? Et là, bon, peut-être, là aussi, c'est une autre histoire. Je pense que ce qui est également en cause, et dont on parle peu, c'est la dimension apocalyptique de la mission du prophète, de Mohammed. La dimension apocalyptique est lourdement présente dans le Coran. Il ne s'agit pas de un ou deux versets ou de une ou deux sourates, mais de dizaines de sourates et de dizaines de versets qui annoncent la fin imminente du temps, du monde, et l'arrivée du jugement dernier, et dans le hadith, pas dans le Coran, l'avènement du Messie. Et dans les couches anciennes de hadith, ce Messie qui vient pour la fin des temps, c'est Jésus. C'est Jésus. Alors, il s'agit peut-être des parties qui sont authentiques, c'est-à-dire les parties apocalyptiques du Coran et les hadiths qui parlent de la fin imminente du monde et de l'arrivée de Messie. Pourquoi ils ont des chances d'être authentiques? Parce que finalement, la fin des temps n'est pas arrivée. Donc, problème. Et les musulmans postérieurs n'avaient aucun intérêt de fabriquer des hadiths ou des parties du Coran qui parlent de la fin du temps, puisque cette fin du temps n'est pas arrivée, et donc ces choses-là décrédibilisent leurs prophètes. Donc, il y a beaucoup de chances pour penser que le prophète était venu annoncer la fin des temps, et que finalement, cette fin des temps n'est pas arrivée, et que les armées arabes ont conquis la moitié du monde en 20 ou 30 ans. Donc, il faut réécrire l'histoire, il faut reforger une mémoire, ce qui fait que le Coran est né dans cette ambiance de bouleversement total. Ça expliquerait peut-être ces aspects problématiques, déjà pour les musulmans eux-mêmes. Je vous remercie.